Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Dumondi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
La cité des Askia nous accueille pour ce grand dialogue délocalisé. Mesdames, messieurs, bienvenue à Gao. Nous allons parler aujourd'hui de l'action humanitaire dans la région. Vous nous écoutez donc depuis les locaux de la radio Adar Koïma, partenaire du Studio Tamani. On a vu que Gao a subi l'occupation dont les stigmates se font encore quelque peu sentir. Cette région de plus de 78 000 habitants bénéficie de l'appui d'institutions et d'ONG œuvrant dans l'action humanitaire. Ces actions ont-elles un impact sur le quotidien de la population? Comment s'organise tout ça dans un climat parfois tendu par une insécurité résiduelle? Gao est-elle aujourd'hui dépendante de la réponse humanitaire? Pour répondre à ces quelques questions, trois invités. Oscar Safari, il est de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Alexis Kamanzi, il est lui de OCHA. Ismaël Agmohamed, chef de base de l'AMSS, c'est l'Association malienne pour la survie au Sahel. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission. La technique est assurée par Nuhundire, accompagné de nos amis de la radio Adar Koïma.
Le grand dialogue.
Le conflit qui a éclaté dans le nord du pays en 2012 a considérablement affaibli les communautés du Mali, déjà aux prises avec des problèmes de pauvreté, d'insécurité alimentaire et de malnutrition, avec un taux de prévalence d'environ 11,5% selon l'UNICEF. L'accès aux services sociaux de base reste encore difficile avec le défi sécuritaire. Sécurité alimentaire, nutrition, santé, éducation, eau, hygiène et assainissement. Abris et protection sont entre autres les secteurs d'intervention de ces nombreuses ONG nationales et internationales sous la coordination de OCHA qui assure la mise en œuvre d'un plan de réponse commun. De nombreux réfugiés et déplacés sont revenus chez eux, même si environ 137 500 réfugiés se trouvent encore dans les pays voisins. 33 400 au Burkina Faso, 52 000 environ en Mauritanie et quelques 50 000 au Niger selon l'ONU. On constate déjà, je m'adresse là à Alexis Kamanzi de OCHA, la frontière parfois entre l'aide au développement et l'action humanitaire reste un peu incomprise par la population en général. Où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui cette frontière? Qu'est-ce que l'action humanitaire?
Alors, merci beaucoup pour la parole. Je pense que c'est pas seulement la population des fois qui est confondue par rapport à cette action humanitaire. Des fois on nous confond avec les acteurs de développement. Il faut dire que les humanitaires interviennent lorsque justement après les conflits, après un clash, après un séisme, on intervient justement pour relever un peu à un certain minimum la population qui vient d'être affectée. Donc c'est pas des actions de longue durée, c'est des actions de courte durée, justement pour créer une sorte de stabilité dans un premier temps, pour donner la chance aux acteurs de développement de prendre le pas. Donc nous on intervient donc dans les premiers jours de l'action après les clashs. Et malheureusement on ne peut pas intervenir dans tous les domaines. Il y a des domaines bien précis, des domaines humanitaires, et on vient juste pour une courte durée. Et là, justement, comme j'ai dit, on donne la brèche aux acteurs de développement pour prendre le pas.
Merci. Donc, par essence, on va dire que les actions humanitaires ne sont pas faites pour aller dans la durée, en général.
La durée, voilà. Des fois, ça dépend. Ça dépend, vous savez, dans nos pays africains, des fois, lorsqu'il y a une crise, ça se répand, ça se répète. Et souvent, on est obligé de rester un peu plus longtemps. Et on est motivé. Ce qui nous motive, c'est pas la durée du conflit, ce qui le motive le plus, c'est les besoins de la population, les personnes qui sont affectées. Aussi longtemps qu'il y a des personnes qui sont affectées, on est présent. Et pour le cas de Gao, évidemment, on est là parce qu'il y a des besoins. Vous les avez très très bien cités, il y a des besoins dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il y a une présence humanitaire, des acteurs humanitaires qui sont là, les ONG, les agences des Nations Unies. Donc aussi longtemps que les besoins primaires de la population ne sont pas satisfaits, on restera là.
Merci. Oscar Safari, vous êtes vous donc de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. On connaît un peu l'OIM pour intervenir parfois quand il y a des Africains ou quand il y a des gens qui sont renvoyés d'un pays à un autre. On a vu l'OIM intervenir pour rapatrier les Maliens de Centrafrique, par exemple. Alors, qu'est-ce que l'OIM fait ici à Gao?
Ok, merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je réponds au nom d'Oscar Safari. Je suis le chef de sous-bureau de l'OIM Gao. Donc l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, est pour les migrations. Mais cette fois-là, les migrations coordonnées et ordonnées, comme nous le disons, qui sont bénéfiques et pour les migrants et pour la société. Ce que l'OIM fait ici et ce que l'OIM a fait juste après la crise, il faut souligner que l'OIM était dans ce pays avant la crise en train de travailler avec le gouvernement en matière et en politique et en stratégie migratoire, de gestion de migration. Mais avec la crise, la première activité que l'OIM a fait, c'était ce qu'on appelle le mettre en place une base de données de mouvement de population qu'on appelait DTM. C'est juste une matrice qui permet de comprendre qui quitte où, pour aller où.
Donc en termes plus compréhensibles pour nos auditeurs, c'est grâce à l'OIM, en fait, au travail, à ce travail-là, qu'aujourd'hui tous les humanitaires peuvent savoir combien de déplacés il y a dans telle ou telle zone.
Voilà, et ce n'était pas l'OIM seul, il y avait des partenaires de la commission qu'on a mis en place qui étaient bien sûr sous le leadership de l'OIM et de la Direction nationale du développement social. Et voilà, ce travail-là a consisté non seulement à déterminer le nombre de personnes qui bougent, leur destination et leurs besoins à la destination finale. Ce n'était pas un travail arithmétique, mais beaucoup plus c'était une tendance, une sorte d'alerte précoce qui était partagée à temps réel avec les humanitaires pour connaître les besoins qui les attendaient sur le terrain et le travail. Et cela facilitait la coordination et la recherche de fonds parmi les humanitaires.
Merci, Oscar. On va revenir encore pour parler justement des difficultés qu'il y a sur le terrain. Le temps de donner la parole à Ismaël Ag Mohamed. Il est le chef de base de l'AMSS, l'Association malienne pour la survie au Sahel, une ONG nationale. Alors, l'AMSS intervient dans quel secteur essentiellement ici à Gao?
Ok, merci beaucoup. Je suis Ismaël Ag Mohamed, chef de base AMSS Gao. Nous sommes là à Gao dans le cadre d'un programme de monitoring de protection, de lutte contre les violences basées sur les genres et de promotion de la cohésion sociale. Donc, c'est un projet que nous exécutons avec le financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Comme vous le savez, la crise que notre pays a traversée a profondément ébranlé les fondements du vivre ensemble. La cohésion sociale a été largement effritée. Donc, nous travaillons de sorte à renforcer la cohésion entre les communautés, d'une part. Ça, c'est une dimension de notre travail. En parallèle, également, nous travaillons de sorte à identifier les cas de violences basées sur les genres et essayer d'apporter des réponses appropriées à chaque cas. Et la dernière dimension de notre travail, c'est le monitoring de protection. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque mois, nous dégageons les tendances, les problématiques et besoins de protection dans pratiquement tous les cercles des régions de Gao, Menaka et Kidal. Nous avons 54 staffs positionnés sur le terrain. Donc nous faisons le profilage des zones de retour pour renseigner les réfugiés qui sont à l'extérieur, d'aider un peu la situation en matière de protection.
Merci. On va revenir du côté de Ocha avec Alexis Kamazi. Alexis Kamazi, comment se porte Gao en gros, en termes humanitaires aujourd'hui?
Bon, je dois dire que Gao se porte plus ou moins bien. Lorsqu'on parle en termes d'humanitaire, il faut souligner un grand acteur d'effort qu'il ne faut pas oublier, c'est le gouvernement. Ce sont les acteurs du gouvernement. Moi, je le dis souvent que les premiers acteurs humanitaires, c'est le gouvernement. On l'a vu d'ailleurs lors des dernières inondations. C'est le gouvernement qui a été le premier à emboîter le pas, à donner l'assistance aux personnes qui ont été affectées par les inondations. Nous, on est venus après. Donc, en général, l'action humanitaire se porte bien à Gao. Par la présence de ces acteurs humanitaires, les ONG internationales, les ONG nationales, les communautés, Encore une fois, les communautés jouent un rôle très très grand. Nous intervenons lorsque les familles d'accueil sont présentes et donnent de l'assistance à ces personnes qui fuient dans leur foyer. On doit dire que ça va plus ou moins bien. Ça va, lorsque je dis ça va, ça dépend des financements. On n'a pas assez de financement. On n'a pas assez de financement pour que toutes les agences des Nations Unies...
Justement, qu'est-ce qui explique ça? On m'a parlé, entre autres, de plus de 50 ONG nationales et internationales qui travailleraient à Gao. On a quand même un peu de mal à croire qu'il y a un manque de financement pour qu'il y ait autant de structures qui agissent dans l'humanitaire. Qu'est-ce qui explique le manque de fonds?
Ce qui explique, c'est qu'il n'y a pas que le Mali. Sur l'échiquier mondial, il y a d'autres crises. Il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a des crises un peu partout. Alors le Mali fait partie aussi d'autres crises. Je pense que les bailleurs de fonds, ils ont souvent des problèmes à répartir ce gros gâteau de crise à tout le monde. Et le Mali, comme vous savez, Ocha est au centre de tout ça pour faire le plaidoyer pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent, assez d'argent pour que le Mali puisse bénéficier de cette aide. C'est une lutte qui continue. Je dois dire que les premiers quand même besoins sont satisfaits. La présence de ces humanitaires sur le terrain essaye tant bien que mal de se bénir aux premiers besoins de la population. Évidemment, c'est très dur de le voir, parce que les besoins sont tellement nombreux, que souvent, c'est comme si c'est une goutte dans la mer. Et puis, les gens pensent qu'on est là pour donner de l'assistance à tout le monde. Et ça, il faut comprendre qu'on ne donne pas l'assistance à tout le monde. On donne l'assistance aux personnes les plus vulnérables. C'est ça la différence. Alors, on ne donne pas à tout le monde.
J'imagine que vous avez des critères d'évaluation.
Absolument. Je vais laisser le soin à mon ami de l'ONG nationale de parler un peu des critères. Mais il y a des critères bien précis. Tout le monde est dans le besoin. Tu es dans le besoin, je suis dans le besoin. Mais il faut voir qui ont beaucoup plus de besoins que d'autres.
D'accord. Merci. Oscar Safari de l'OIM, dites-moi, est-ce qu'on peut, si on dit aujourd'hui que les services sociaux de base sont accessibles aux habitants de la région de Gao, est-ce qu'on se trompe?
On ne se trompe pas parce qu'il y a quand même un début. Ce n'est pas, bien sûr, la perfection. Mais comme on a dit, les acteurs humanitaires, sur base des critères que nous appelons les critères de vulnérabilité, ont su identifier à temps et sur base du travail que j'ai dit qui a été fait en amont de matrice de déplacement, ont su identifier chacun dans ses compétences ou dans son mandat, ont su identifier les gaps et ils se sont mis à l'œuvre et c'est ainsi que vous avez vu des écoles réhabilitées, des centres de santé. Et ici à Gao, vous avez vu des marchés, ainsi de suite. Donc, on peut dire que ce n'est pas la perfection, mais la communauté humanitaire a fait ce qu'elle pouvait, dans la mesure du possible, pour répondre tant soit peu aux besoins sociaux, économiques qui se posaient et qui continuent à se poser avec acuité dans la région.
Merci. Alors, je m'adresse là à Ismaël Ag Mohamed, chef de base de la MSS. On a tantôt parlé tout à l'heure des critères de sélection, justement, pour qui doit bénéficier de ces... On sait qu'il y avait une forte prévalence quand même de besoins, parfois humanitaires, même avant la crise. Aujourd'hui, comment identifier l'acteur qui a besoin d'appui?
Ok. Donc, au préambule de cette réponse, je tiens d'abord à préciser que les critères dépendent des secteurs en réalité. Parce que les critères de vulnérabilité en sécurité alimentaire, par exemple, et les critères de vulnérabilité en protection ne sont pas les mêmes. Et aussi, lorsqu'on veut appuyer des groupements féminins en AGR, il y a d'autres critères.
AGR.
Voilà. Donc, en fonction de chaque projet, en fonction de chaque secteur, nous avons des critères assez spécifiques. Par exemple, dans le domaine de la sécurité alimentaire, on met plus en avant la vulnérabilité du ménage, les mouvements, la situation financière du ménage, si le ménage est soutenu ou pas, autant d'éléments qu'on prend en compte. Maintenant, en protection, on se focalise beaucoup plus sur l'handicap, si la personne a été victime, par exemple, de viol, etc. Donc, il y a autant d'éléments aussi.
Alors, quels sont les secteurs prioritaires, on va dire? Qu'est-ce qui, parmi tous ces secteurs-là, dans lesquels vous travaillez aujourd'hui, où est-ce qu'il y a le plus de besoins? Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est dans la protection? Est-ce que c'est... Voilà.
Donc pour le moment, je pense que par rapport à cette question, OCHA va donner plus de précisions, mais à notre niveau, on sait quand même qu'on a des sérieuses difficultés par rapport à l'accès humanitaire, des difficultés aussi de protection parce que les civils sont touchés. Je pense que les incidents qu'on reporterait par semaine, par mois, donne souvent la chair de poule. Donc il y a d'abord un premier problème de protection des civils au regard des différents affrontements qu'on enregistre, notamment à Kidal et les différents incidents sécuritaires. Donc moi, à mon niveau aussi, je dois prioriser les secteurs. Je vais mettre à premier niveau la protection des civils. Maintenant, effectivement, nous avons d'autres problématiques. Sécurité alimentaire, embauche, etc. Alexis de Ocha donnera plus de détails par rapport à ça.
D'accord. En quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Avant de commencer à parler des priorités dans le secteur de l'humanitaire à Gao, on va écouter un enregistrement que Imrana Kilumaiga a fait tout à l'heure pour demander l'avis des citoyens, des habitants de Gao par rapport aux actions humanitaires.
On écoute. Par rapport à l'objet des humanitaires, ils n'ont pas atteint 50% de leurs objectifs. Et que s'il y a vraiment à corriger, c'est de revoir le contenu du cahier de charge. Et c'est de revoir la cible à toucher. Parce qu'il y a réellement des cibles à toucher. Il y a cible en humanitaire. D'accord que tout le monde, la situation dans laquelle nous sommes actuellement, tout le monde est dans le besoin. Mais il y a des gens qui sont encore plus nécessités que d'autres. Ça, c'est des couches très fragiles. Ce sont ces couches-là qui disent qu'ils ne connaissent pas les humanitaires à Gao. Voilà, merci beaucoup.
Bien vrai, il y a 52 ONG nationales et internationales dans la région de Gao. Mais ce n'est pas beaucoup d'ONG qui aident beaucoup les femmes. Donc ça, on l'a dit même le jour de l'heure, le 19, la journée des humanitaires. On a souligné ça. Donc, le coordinateur de OCHA, il nous a dit que de ne pas parler, ça va se régler. Ils sont venus ici pour leur propre intérêt, je l'ai dit à haute voix. Ce n'est pas la peine de dire que c'est telle ONG, c'est telle ONG. Ça, je ne peux pas le faire. Quand la vie passe, les ONG qui font ça, ils connaissent leur nom. Donc, ils n'ont qu'à reculer par derrière. Parce que s'ils ne reculent pas par derrière, nous, on va le dire. Parce qu'ils sont là pour nous, les femmes. Il y a des ONG qui regardent le visage des gens, les parents. Tu n'es pas venu ici pour tes parents, tu es venu ici pour tout le monde. En tant qu'humanitaire, un humanitaire doit être neutre et impartial. Mais ce n'est pas le cas ici.
Alors, vous avez vu un peu le coup de gueule, Alexis. Ocha, vous avez vu un peu Alexis Kamanzi. Vous avez entendu un peu le coup de gueule de certains habitants de Gao. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? On parle de moins de 50% des objectifs atteints déjà.
Bah, je ne sais pas celui qui a parlé de ces 50%. En tout cas, c'est pas OCHA. C'est le même, je ne sais pas, il vient de quelle organisation. 50% par rapport à quoi? Plutôt, moi, je vais me pencher sur ce que madame a dit. Je pense qu'on en a parlé lors de la journée mondiale humanitaire. C'est moi-même qui lui ai dit on va voir ça ensemble, calmement. Comme j'ai dit tout à l'heure, les besoins sont énormes. Et moi, je suis sûr et certain que le genre, toutes les ONG prennent en compte le genre. Et évidemment, ça ne touche pas toutes les femmes. Et c'est quelque chose qu'on est en train de voir ensemble. Après, justement, cette journée-là, c'est une mise en question. On s'est réunis tous pour voir exactement où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas. Et évidemment, comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quelque chose qu'il faut voir en profondeur et voir si ce genre dont on parle tout le temps, est-ce qu'il est vraiment effectif ou pas. Évidemment, 50%, je ne peux pas en parler plus parce que je ne sais pas si c'est 50% de quoi, mais est-il que toutes les 52 ONG qui sont à Gao ne couvrent pas tous les besoins? La population ne peut pas sentir ça. Et lorsqu'on parle de Gao, il ne faut pas parler seulement de Gao ville.
On parle en gros de toute la région de Gao. Est-ce que vous pensez que les besoins sont beaucoup, ou les besoins ou les attentes sont beaucoup trop grandes par rapport aux moyens déployé sur le terrain?
Moi, je pense que les besoins sont nombreux et les attentes sont nombreuses. Ben, tout est nombreux. Vous-même, voilà, à l'introduction, vous avez parlé des besoins dans différents secteurs. Mon ami de l'ONG AMSS a parlé aussi de ces secteurs. Il y a des besoins partout dans tous les secteurs. Il y a des besoins dans la santé, des besoins dans la nutrition. Il y a des besoins à accès à l'eau. On sait très bien qu'à Grau, c'est un grand problème. L'éducation, il y a la protection également. Il y a des besoins, ils sont nombreux. Les besoins sont nombreux et les attentes de la population sont nombreuses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque je parlais du gouvernement, je pense qu'un grand pas qui est franchi aujourd'hui par les acteurs du gouvernement, c'est de voir comment ils s'engagent à prendre le pas le premier, à donner l'assistance à la population. Ça, c'est quelque chose de très bien. Et je pense que nous aussi, on est en train d'adapter notre système par rapport à ça. Et vous savez très bien, les secteurs, lorsque je parle ces secteurs sont normalement présidés par les agents du gouvernement. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la nutrition, on est ensemble avec le gouvernement. Et nous, humanité, comme je le dis, on ne peut pas subvenir à tous les besoins sans que le gouvernement soit là. Lorsque je parle du gouvernement, c'est que c'est les acteurs de développement qui entrent en jeu. L'humanitaire, c'est vraiment c'est une petite portion qui vient juste vraiment aider une petite portion de la population. Les acteurs du gouvernement, maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Si le gouvernement s'est engagé, il faut que les acteurs du gouvernement viennent également. Et je pense que c'est ça qui est en cours. C'est ça qui est en cours. On va travailler, on va faire ce qu'on peut faire.
Merci. Oscar Safali de l'OIM. Alors, dites-moi, est-ce qu'on a des chiffres par rapport justement au nombre de retournés de réfugiés qui sont rentrés ou de rapatriés ou de déplacés qui sont revenus à Gao?
Bien sûr, comme j'ai dit, les chiffres ne sont pas arithmétiques, c'est des tendances. Et comme je disais, c'était une sorte de un outil d'alerte précoce pour que les gens sachent, les acteurs du moins, sachent que cette tranche ou cette catégorie de population est en train d'arriver. Voilà les enfants à l'âge scolaire, le nombre à peu près, qui vont dans telle contrée, qui retournent dans... qui vont.
Alors, c'est quoi justement les tendances dans la région de Gao? Où est-ce qu'on assiste le plus au retour?
Au retour en termes de...
Est-ce que c'est à Gaoville?
Non.
Est-ce que c'est à l'intérieur?
Malheureusement, ce n'est pas à Gaoville, c'est les cercles dans Songo qui a beaucoup plus de retournés, malheureusement. Mais les gens ne savent pas ça. C'est là qu'il y a eu beaucoup plus de retournés, des anciens déplacés internes.
Parmi, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants plutôt?
L'outil que nous avons développé, nous avons trouvé qu'il y avait 48% d'hommes et 52% de femmes. Donc, c'est presque équilibré.
D'accord. On a des chiffres ici qui nous parlent de 21 860 rapatriés en tout, pas uniquement dans la région de Gao. Est-ce qu'on a un chiffre précis pour les rapatriés à Gao?
C'est les rapatriés anciens réfugiés qui relèvent de la compétence du HCR. Je laisserai le soin au chef de sous-délégation du HCR des... commenter ces chiffres-là.
D'accord. Voilà. Alors, Ismaël Ag Mohamed de l'AMSS, j'ai cru comprendre que vous travaillez aussi dans ce secteur-là avec le HCR pour le retour des réfugiés. Donc, est-ce que vous avez des tendances au niveau de l'AMSS par rapport à ces retours?
Bon, en fait, en ce qui concerne, c'est comme l'a dit Alexis, c'est l'État qui est en charge de l'enregistrement. Okay. Maintenant, le HCR travaille avec le développement social. Et en fait, nous, on est en contact direct avec les mouvements de population. Quand les déplacés arrivent, quand les rapatriés arrivent, nous sommes très généralement les premiers qui sommes au courant. Donc, on se préserve toujours le droit de donner des situations ou de prendre le leadership par rapport au suivi des chiffres. C'est pour ça qu'on réfère toujours les cas au développement social. Donc, c'est le développement social qui a toute la situation des chiffres, voilà, des retournés, des rapatriés. Il faut noter qu'il y a des PDI, il y a des rapatriés, il y a des réfugiés également, mais ça c'est en dehors de... Parce que généralement nos téléspectateurs ne comprennent pas. C'est pour ça que je tenais à préciser qu'il y a des déplacés internes. Ça c'est un mouvement à l'intérieur d'une localité à une autre. Les rapatriés, c'est lorsqu'un réfugié retourne. Et un réfugié, C'est lorsqu'il quitte son pays.
Son pays pour donc, aller dans un autre pays.
Dans un autre. Donc je tenais à préciser cela. Mais par contre, AMSS se focalise beaucoup plus sur les besoins et problématiques de ces PDI et de ces rapatriés-là. Lorsqu'ils sont venus, est-ce qu'ils ont eu des problèmes en route, etc., etc. Donc nous travaillons beaucoup plus sur ces aspects-là.
Ah, justement, en termes de besoins, qu'est-ce qui est fait justement à leur retour? Est-ce qu'ils bénéficient d'un paquet du retour pour leur permettre de se réinstaller, par exemple, dans leur zone d'origine?
Oui, en fait, généralement, nous travaillons par rapport à ça en collaboration avec les autres acteurs humanitaires. Lorsque les rapatriés arrivent, après la première évaluation rapide, on essaie de mobiliser une assistance, généralement en NFI et en food.
C'est quoi NFI?
NFI, c'est No Food...
Bien non alimentaire.
Merci.
Bien non alimentaire, ce qui n'est, voilà, ce qui n'est pas du vivre, tout simplement. Mais généralement, les besoins immédiats, c'est des besoins en NFI et en vivre. Donc généralement, les acteurs se mobilisent pour apporter des réponses. Mais effectivement, dans le long terme, on a des difficultés. Il faut reconnaître que le système de protection, le système de réponse humanitaire est fragile. Et nous devons y travailler encore plus.
Évaluer. Vous avez entendu tout à l'heure la réaction de certains habitants de Gao. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, en fait, la préoccupation de ceux qui nous écoutent sont pertinentes. Et je crois qu'il faudrait que les ONG, à un moment donné également, comme j'ai à le dire, commencent à jeter un regard critique sur leurs actions. Mais les difficultés et les faiblesses des acteurs humanitaires ne suffisent pas pour dire en réalité que les ONG ne travaillent pas. Okay, il y a des défis, il y a un chemin à parcourir. Comme l'a dit Alexis, on ne peut pas assister tout le monde. Même parmi les vulnérables, les extrêmes vulnérables, on n'arrive pas à les couvrir, a fortiori, et ceux qui ne sont pas en situation de vulnérabilité. Il faudrait également que les gens sachent que l'intervention humanitaire, c'est beaucoup plus en dehors du rayon de la commune de Gao. Donc, on est beaucoup plus sur le terrain que sur Gao. Mais on prend bonne note, Alexis. Je pense qu'au niveau de OCHA, au niveau de l'OIM, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes et davantage améliorer notre action.
Merci. Je reviens du côté de Alexis, où le rôle parfois de OCHA reste incompris par la population. Alors, qu'est-ce que OCHA fait très exactement? On va profiter du micro pour expliquer un peu le rôle de OCHA dans tout ça.
OCHA, c'est une agence des Nations Unies qui coordonne les activités humanitaires. OCHA et au centre de cette activité humanitaire pour faire en sorte que toutes les agences des Nations Unies, les ONG, puissent être coordonnées et donner des réponses adéquates. Vous savez, lorsqu'on n'est pas organisé, des fois chacun entre dans son domaine et puis après il n'y a pas vraiment de répondant. OCHA est au milieu pour que... Souvent les gens ils confondent, ils ne comprennent pas, c'est vrai, OCHA c'est quoi exactement? OCHA on est là, on fait la coordination de tout ça et on le fait en coordination avec le gouvernement. Donc on fait en sorte que justement qu'il n'y ait pas, cette incompréhension de la population qui pense pourquoi il y a telle tranche de la population qui est assistée et pas d'autres. On fait en sorte que justement tous ces secteurs, tous ces acteurs humanitaires qui sont là puissent assister des populations suivant ces secteurs. Et on est là, on ne fait pas l'arbitre, mais on crée un cadre propice pour que ces acteurs puissent travailler, qu'il y ait un lien direct avec la population, qu'il y ait un lien direct avec le gouvernement, faisant en sorte que chacun puisse avoir sa responsabilité. Et là je pense que c'est vrai que lorsqu'on parle que 50% des besoins sont couverts, mais il faut aller au-delà. Il y a des problématiques justement pour pouvoir même travailler sur terrain. Je suis sûr que tu as une question par rapport à ça. Je ne vais pas y répondre tout de suite.
On va revenir justement.
Ouais, donc s'assure vraiment, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Il est de notre responsabilité. La présence des humanitaires à Gao, dans la zone de Gao, ce n'est pas une présence physique seulement. Si les populations se plaignent aujourd'hui, il faut se poser des questions. Où est-ce que nous en sommes? Pourquoi est-ce que les populations se posent des questions? C'est à notre responsabilité d'expliquer aux gens justement pourquoi il y a des...
En tant qu'organe qui centralise un peu tout ce travail-là aujourd'hui, quelle est la vraie priorité hein, pour les, dans la région de Gao aujourd'hui. Est-ce qu'on doit parler de protection? Est-ce qu'on doit parler de santé? Est-ce qu'on doit parler de nourriture? C'est quoi la vraie priorité dans la région de Gao aujourd'hui?
Vous savez, l'homme est complexe. Hein. Tout est prioritaire. Les secteurs, comme notre collègue...
J'imagine qu'il y a un besoin plus accru quelque part, peut-être en sécurité, que par rapport à un autre volet.
Je ne vais pas parler de la sécurité alimentaire sans parler de l'éducation. Hein. Je ne vais pas parler de l'éducation sans parler de la protection. Donc, il y a des besoins dans tous les secteurs. Hein. Il n'y a pas un secteur qui est plus priorité qu'un autre secteur. Je pense, comme je l'ai dit, il y a des besoins en éducation, en santé. Si aujourd'hui on parle de 9% des centres de santé communautaires sont non opérationnels et qu'on a 55% des structures sanitaires soutenues par les ONG, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un grand besoin. Si aujourd'hui on parle de 11,5% de malnutrition aiguë globale dans la région, moi, je pense que c'est quand même un problème. Comment prioriser? Si on parle de 58% de la population qui n'ont pas accès à l'eau, voilà, c'est énorme. 11,3% des écoles de la région sont fermées et 11,5% des enseignants sont absents. Vous comprenez ce que ça veut dire. Tout est lié, tout est lié. Alors, les ONG, c'est pour ça qu'il y a différentes ONG dans différents domaines, justement pour essayer de couvrir tous ces secteurs. Parce qu'on ne peut pas dire que ce secteur est plus important que l'autre.
Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Restez connectés avec nous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes à Gao pour parler de l'action humanitaire dans la région de Gao. À présent, on va entamer un de nos volets. Comment améliorer la réponse humanitaire pour une plus grande efficacité? En attendant, Oscar Safari de l'OIM, dites-moi, le défi sécuritaire occupe justement quel espace dans votre travail? Comment arrivez-vous à être sur le terrain avec autant de soubresauts sécuritaires dans la région?
Merci beaucoup pour la question. Les défis sécuritaires n'est pas seulement pour nous, c'est pour tous les partenaires humanitaires, avec tout ce que nous avons connu comme perte en vie parmi les humanitaires, que nous déplorons et nous nous inclinons devant ces hommes et ces femmes qui sont décédés sur les champs de bataille, que leur âme repose en paix. C'est un défi énorme, mais qu'à cela ne tienne, les humanitaires ont mis en place des stratégies pour apporter l'aide humanitaire. C'est comme nous avons dit, c'est avec les bénéficiaires, travailler directement avec les communautés bénéficiaires et faire en sorte que le bénéficiaire fasse elle-même un plaidoyer pour l'assistance qu'il reçoive, en sorte que tout ce qu'il y a comme obstacle sécuritaire, et ce n'est pas encore efficace, mais c'est là que nous allons faire des bénéficiaires, des partenaires dans la réponse. Et là, nous avons une solution au défi sécuritaire. Et bien sûr, nous tous, nous savons que le processus TDR qui va être lancé ou qui est déjà en cours pourra, tant soit peu, résoudre cela. Mais nous n'avons pas croisé les bras, tous les humanitaires n'ont pas croisé les bras, quels que soient les défis. Ils ont tout fait pour atteindre les bénéficiaires. Nous en félicitons, quoi.
Merci.
Donc, malgré les défis, nous sommes allés sur le terrain, nous sommes là.
Merci. Ismaël Ag Mohamed de l'Association malienne pour la survie au Sahel. Alors, comment vous organisez-vous pour pouvoir travailler avec cette insécurité résiduelle dans la région?
D'abord, je tiens à rappeler que les ONG nationales ont moins de difficultés par rapport à l'accès humanitaire que les ONG internationales, en raison d'abord de leur rapprochement, si vous voulez, avec les communautés locales, parce que les ONG locales et nationales sont ici, de ces communautés et on traite vraiment une politique de recrutement terrain, une politique de travail basée sur les réalités du terrain. Et d'ailleurs, nous invitons les ONG internationales à essayer de s'inspirer davantage de cette expérience-là parce que les incidents que nous enregistrons généralement sur les axes routiers sont souvent l'expression de frustration, l'expression d'un certain nombre de choses. Et nous travaillons dans des secteurs très sensibles, notamment la sécurité alimentaire. Vous savez, lorsque vous distribuez des vivres, ça passe d'abord par des ciblages. Et lorsque vous créez des frustrés au moment du ciblage, vous pouvez vous attendre à de telles situations qui sont très déplorables. Donc il faudrait repenser et redéfinir l'action humanitaire de sorte à intégrer ces petites dimensions communautaires. Je pense que ça pourrait nous faciliter. Je suis d'accord également avec le chef des bureaux de l'OIM. Il faut impérativement accélérer la mise en œuvre du DDR et entamer les autres dispositions de l'accord de paix.
Vous pensez que l'installation des autorités intérimaires, par exemple, pourrait éventuellement ramener plus de sécurité?
Oui, c'est surtout le désarmement en réalité, parce que le problème c'est les groupes armés, c'est la circulation et la présence des hommes armés et qui appartiennent souvent à des groupes armés.
Est-ce qu'il y a des zones, par exemple, où même les ONG nationales ne peuvent pas aller? Dans la région de Gao.
Toutes les ONG ont des difficultés d'accès, y compris les ONG nationales. Mais les ONG nationales ont moins de difficultés que les ONG internationales. Voilà.
Merci. Alexis Kamanzi de Ocha, alors justement par rapport à cet énorme challenge qui est d'arriver à avoir accès aux zones par rapport aux actions humanitaires. Comment est-ce que vous évaluez cette situation dans la région?
Je dois dire que c'est le plus grand problème que rencontrent les humanitaires aujourd'hui. C'est vraiment l'accès humanitaire. Je peux donner juste un petit exemple. Kidal, où j'ai fait une mission de presque une semaine, où j'ai rencontré tous les acteurs humanitaires de Kidal après le clash du 21-22 juillet, et où tout le monde était bloqué dans leur maison. Ils ne quittaient pas les maisons parce qu'il y avait l'insécurité dans la ville, il y avait l'insécurité en dehors de la ville. Ça, c'est un grand problème. Si on est là pour donner l'assistance, on ne peut même pas quitter les bureaux. C'est un grand problème. Ocha, dans ses attributions, évidemment, il y a le plaidoyer. On est appelé à rencontrer toutes les parties en conflit. Parmi les choses qu'on a fait au niveau de Kidal, c'est de rencontrer les parties en conflit pour discuter avec eux. Parce que finalement, les populations que nous assistons, c'est des populations, même de ces membres des groupes armés. Donc il faut absolument que tout le monde soit conscientisé par rapport à ce problème. C'est une course très difficile, mais on va y arriver, on rencontre tout le monde. Évidemment, tout le monde est responsable. Hein. Comme je le dis, le premier responsable, évidemment, de tout ça, c'est le gouvernement. On approche le gouvernement pour que le gouvernement puisse nous aider à avoir accès à ces zones-là et qu'il puisse nous accompagner. Hein. Aujourd'hui, si on dit, au niveau de Gao Bourem, Gao Ansongo, là où les gens sont attaqués tous les jours, c'est un problème. Hein. Les chiffres le parlent. Donc, si on regarde entre le 19 novembre l'année passée et cette année, plus d'une centaine d'incidents sécuritaires enregistrés, des braquages sur les routes. Il y a même des gens qui ont été attaqués au risque de perdre leur vie. C'est un grand problème. C'est un grand problème. C'est un grand problème pour le moment. Si le peu d'assistance que nous avons ne peut même plus arriver à la population, c'est volé sur les routes et ça disparaît dans la nature. On se demande alors finalement quelle est la valeur ajoutée. C'est pour ça que les populations ne voient pas ce que nous faisons, parce que justement, ça ne parvient pas aux personnes qui ont besoin. C'est une grande charge. Je rencontre régulièrement le gouverneur de Gao, je rencontre régulièrement le gouverneur de Kidal, je compte rencontrer le gouverneur de Melaka, je rencontre souvent, très souvent, les membres des groupes armés, justement pour les conscientiser, pour leur faire comprendre que le travail que nous faisons, nous ne faisons pas un travail politique, nous sommes des humanitaires apolitiques et nous assistons tout le monde. Évidemment, des fois, les uns pensent que nous assistons les autres, que c'est pour ça, des fois, les gens disent qu'on n'est pas très, très impartial. C'est pas facile.
J'imagine. Alors, je m'en vais vous poser cette autre question. Comment est-ce qu'il faut faire pour arriver à rendre les populations de la région de Gao plus indépendantes face à l'aide humanitaire? On voit parfois que certains pays qui bénéficient de cette aide humanitaire ont du mal à se défaire justement de ces aides-là. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des programmes justement de résilience qui permettent aux gens d'aller vers cette indépendance-là justement par rapport aux aides humanitaires?
Bon, il y a encore du chemin. Indépendance totale, je dois dire, c'est pas pour demain. Mais ce qui est positif, c'est que je vois de plus en plus des associations locales, des associations nationales. Aujourd'hui même, j'ai rencontré une très bonne association des femmes, si je me rappelle bien, Nioli ou Niali, où les femmes se sont mises ensemble et ont fait des programmes.
Est-ce qu'il y a des initiatives, par exemple, qui sont sponsorisées pour être pérennes après?
Absolument. Comme je dis, il y a des choses très positives. Donc, il y a des associations. Évidemment, on ne peut pas sponsoriser un individu. On éduque les gens à se mettre ensemble. Il y a des associations des jeunes, des associations des femmes. Et ça commence à aller dans le bon sens. Aujourd'hui, comme je disais, j'ai visité cette association. Et le PNUD, je pense, a déjà commencé. Hier, on a fait une réunion avec pas mal d'organisations nationales, justement pour les intéresser à commencer à emboîter le pas, parce que c'est très important. C'est très important que, justement, cette indépendance, les gens commencent à y penser. Les humanitaires, normalement, ne sont pas là pour rester une année, deux ans, dix ans. Il faut absolument que les gens le comprennent, commencent déjà. Et c'est notre justement, rôle de vraiment de renforcer les capacités des organisations locales pour qu'ils puissent pérenniser les activités que nous menons sur Terre.
Merci. Alors, Oscar Safari de l'OIM, dites-moi, est-ce que l'OIM a justement des politiques qui pourraient éventuellement permettre aux gens de se défaire du besoin humanitaire?
C'est comme ça que j'ai commencé pour nous, et pour la sécurité, et pour la résilience. Il faut associer les bénéficiaires, qu'ils soient partenaires dans l'assistance qu'ils reçoivent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux réhabiliter un point d'eau. Là, non seulement je viens assister la population à réhabiliter ces points d'eau-là, mais la population doit s'approprier d'abord. La population doit s'aider avant que nous ne puissions aider, contribuer à avoir même un technicien, un artisan local pour la traiter, la réparation de ces points d'eau-là plus tard. Et la population doit contribuer de manière considérable à cela pour que, demain, même si les organisations humanitaires ne sont pas là, ils prennent les relais et puissent continuer. Je ne vais pas terminer. Et là-bas, il faut souligner que dans cette phase, nous avons besoin de beaucoup plus d'éducation, de sensibilisation chez les bénéficiaires. En fait, montrer que, comme on a dit, on n'a pas atteint 50%, ça peut être vrai.
Justement, est-ce que vous pensez que les politiques de communication mises en place de part et d'autre par les différentes ONG nationales et internationales marchent?
Il y a, comme nous avons dit, c'est un processus. Il y a le travail que les acteurs humanitaires sont en train de faire et en train de préparer une transition pour les acteurs de développement. Mais je crois qu'il y a déjà cette phase-là où nous sommes déjà, même dans cette phase-là, où on essaie de balancer l'assistance humanitaire et la résilience. Donc, on ne fait plus directement tout pour la population, mais on interpelle, on aide la population à s'aider. Je vais donner le cas ici à Gao. Nous avons assisté à une très bonne association d'handicapés de Gao qu'on appelle... Gorey Ben, et ces handicapés physiques-là, je ne les appellerai pas même handicapés, c'est des personnes vivant avec handicap, ils ont eu du matériel pour faire du savon, ils ont été formés en langue locale comment écrire, comment faire le calcul.
Ils ont été alphabétisés.
Et ils sont maintenant en train de produire et ils continuent et ils évoluent. Initialement, c'était comme une assistance d'urgence, mais quand vous voyez comment ils croissent, vous voyez qu'ils sont sur le bon sens. Et c'est cela que je crois tous les partenaires vont faire et pousser les bénéficiaires à aller lentement et sûrement vers la résilience et vers le développement durable plus tard.
Merci. Ismaël Ag Mohamed de l'Association malienne pour la survie au Sahel. Alors, de votre côté, qu'est-ce qui est fait justement pour rendre la population plus indépendante aujourd'hui?
Ok. Nous avons un programme qui vient de démarrer, comme on l'a dit avec le ACR. Nous couvrons trois dimensions. Et dans le cadre de la résilience ou dans le cadre du développement proprement dit, nous abordons beaucoup plus la cohésion sociale. Parce que comme vous le savez, le contexte l'exige. Donc AMSS travaille de sorte à renforcer la cohabitation pacifique inter-intracommunautaire. Ça, c'est un travail que nous faisons pratiquement dans les régions de Menaka, Kao et Kidal. Donc pour le moment, nous sommes dans ce cadre-là. Donc, et dans les perspectives.
Excellent. Voilà. Je m'excuse de vous arrêter. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci d'avoir partagé votre expertise sur l'humanitaire avec nos auditeurs sur l'ensemble du territoire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation. Nouhundjire, accompagné de Oumar Sidibé de la radio Adar Koïma, ont assuré la technique. Imrana Kilou Maïga a assuré cette émission. Vous nous écoutez grâce à la coordination informatique de Bekay Sissé. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou Dmoundi.
Chenne Beri. Sigi.